Sénèque, lettre à Lucilius, lettre 89. Division de la philosophie, du luxe et de l'avarice. Tu demandes une chose utile, nécessaire même à qui désire arriver vite à la sagesse. Tu veux que je divise la philosophie et que je décompose ce vaste corps en plusieurs membres. En effet, la connaissance des parties nous amène plus facilement à celle du tout. Et plus tôt ciel, tout comme la face de l'univers se développe à nos regards, que la philosophie puisse nous apparaître tout entière, spectacle beau comme l'univers. Certes, elle ravirait à elle l'admiration du genre humain, et lui ferait quitter tout ce qui lui semble grand aujourd'hui, ignorant qu'il est de la vraie grandeur. Mais ce bonheur n'étant point fait pour nous, force nous est d'observer ici, de la même façon que nous contemplons les secrets de la nature. L'âme du sage, il est vrai, embrasse l'universalité de ce grand tout. Son œil le parcourt aussi rapidement que fait le nôtre la voûte céleste. Quant à nous, qui avons à percer tant d'épais nuages et dont la vue s'arrête à un horizon si prochain, il est plus facile de nous exposer les détails, puisque l'ensemble nous échappe encore. Je vais donc, comme tu l'exiges, distribuer la philosophie par division. Non, par lambeaux. Car c'est la division, non le morcellement, qui est utile, et il est aussi difficile de saisir le trop grand que le trop petit. Le peuple se divise en tribus, l'armée en centuries. Ce qui s'élève à des hautes proportions s'étudie mieux dans le classement de ces parties, lesquelles, ai-je dit, ne doivent être ni innombrables ni imperceptibles. Car c'est un abus de diviser à l'excès comme de ne point diviser du tout. C'est l'image de la confusion qu'un fractionnement qui réduit la chose en poussière. Et d'abord, énonçons, pour te satisfaire, en quoi la sagesse diffère de la philosophie. La sagesse est pour l'âme humaine la perfection dans le bien. La philosophie, c'est l'amour et la poursuite de cette perfection. La première montre le but où la seconde est parvenue. Pourquoi l'appelle-t-on philosophie? L'étymologie même du mot l'indique clairement. Quelques-uns ont défini la sagesse, la science des choses divines et humaines. D'autres y ont ajouté, et de leur cause, adjonction superflue, ce me semble, car les causes ici font partie des choses mêmes. La philosophie aussi a été diversement définie. On l'a nommée tantôt l'étude de la vertu, tantôt l'étude propre à corriger l'âme, tantôt la recherche de la droite raison. Il est demeuré à peu près constant qu'il y a quelques différences entre la philosophie et la sagesse, car il ne se peut faire que l'objet poursuivi et le poursuivant soient identiques. Il y a grande différence entre l'avarice et l'argent, puisque l'une désire et que l'autre est désirée. De même, entre la philosophie et la sagesse. Celle-ci est l'effet et la récompense de celle-là. L'une est le terme où marche l'autre. La sagesse est ce que les Grecs appellent Sophia, expression usitée aussi chez nos pères comme chez nous celle de philosophie. C'est ce que prouvent nos vieilles comédies nationales et les mots inscrits sur la tombe de Docénus. Arrête, voyageur, et lis de Docénus quelle fut la sagesse. Bien que la philosophie soit l'étude de la vertu, dont elle se distingue comme le moyen de la fin, quelques stoïciens n'ont pas cru pourtant qu'on pût les séparer, vu qu'il n'y a pas de philosophie sans vertu, ni de vertu sans philosophie. La philosophie est l'étude de la vertu, mais par la vertu même. Or, la vertu ne peut exister sans l'étude d'elle-même, ni l'étude de la vertu sans la vertu. Car il n'en est point ici comme du but qu'on s'exerce à frapper de loin. Ailleurs se trouve le point d'attaque, ailleurs le point de mire. Il n'en est pas comme des chemins qui conduisent à une ville et qui sont en dehors. On arrive à la vertu que par elle-même. La philosophie et la vertu ont donc entre elles un lien commun. La philosophie se compose de trois parties, selon les autorités les plus graves et les plus nombreuses. La science morale, la science naturelle et la science logique. La première forme le cœur. La seconde étudie la nature. La troisième éclaircit les propriétés des mots, leur composition et les moyens d'argumentation pour que le faux ne se glisse point à la place du vrai. Au reste, il s'est trouvé des auteurs qui réduisaient cette division et d'autres qui l'étendaient. Quelques péripatéticiens y joignirent une quatrième partie, la science civile, attendu que celle-ci exige une pratique spéciale et s'occupe de matières étrangères aux trois précédentes. D'autres y rattachent encore ce que les Grecs appellent la science de l'administration domestique. D'autres ont fait des genres de vie une classe à part, mais il n'est rien de tout cela qui ne se trouve dans la morale. Les épicuriens comprennent toute la philosophie sous deux titres, l'un de la science naturelle, l'autre de la morale. Quant à la logique, ils l'écartent. Puis, comme la nature même des choses les obligeait à distinguer les équivoques et à signaler le faux caché sous l'apparence du vrai, ils ont, à leur tour, admis une partie logique sous cette autre dénomination, du jugement et de la règle, l'estimant toutefois accessoire de la partie naturelle. Les cyrénaïques ne voulurent ni de l'une ni de l'autre et se bornèrent à la morale. Mais ils ne les écartent que pour les réadmettre sous des titres différents. Ils établissent en effet cinq divisions de la morale. La première, des choses à fuir ou à rechercher. La deuxième, des passions. La troisième, des actions. La quatrième, des principes des choses. La cinquième, des arguments. Or, les principes des choses appartiennent aux sciences naturelles, les arguments à la logique et les actions à la morale. Aristote de Chio, non content d'avancer que les sciences naturelles et logiques sont superflues, va jusqu'à les dire contradictoires. La morale elle-même, qu'il nous laisse toute seule, perd sous sa main de ses dépendances. Il lui enlève toute la partie des maximes, qui sont, selon lui, du précepteur, non du philosophe, comme si le sage était autre chose que le précepteur du genre humain. Puis donc que nous avons fait trois branches de la philosophie, procédons d'abord à la distribution de la morale. On a cru devoir en former aussi trois sections, dont la première est cette étude qui rend à chacun selon son droit et estime toutes choses leur vrai prix. C'est la plus utile, car quoi d'aussi indispensable que d'appliquer aux objets leur valeur. La deuxième section traite des désirs et la troisième des actions. Car il faut avant tout juger ce que vaut la chose, en second lieu régler et tempérer le désir qui porte vers elle. Enfin, établir entre le désir et l'action une harmonie telle que dans ces trois faits réunis, l'homme soit constamment d'accord avec lui-même. Qu'un seul des trois vienne à faillir, les deux autres ne se répondent plus. Que sert-il, en effet, de bien apprécier intérieurement toute chose si tes désirs sont trop impétueux? Que sert de réprimer cette impétuosité et de tenir tes passions en bride si, dans l'action, la propos t'échappe, si tu ignores le temps, le lieu, le mode convenable pour agir? Car autre chose est de connaître le mérite et le prix de chaque objet, autre chose de saisir les occasions. On peut contenir la fougue de ses appétits et ne pas savoir se porter à l'action sans s'y précipiter. Ainsi, la vie concorde avec elle-même quand l'action ne manque pas au désir et quand le désir est conçu suivant le mérite de la chose, désir plus tiède ou plus vif en raison de ce mérite même. Les sciences naturelles s'occupent de deux ordres de substances, les corporelles et les incorporelles, subdivisées à leur tour, pour ainsi dire, en plusieurs degrés. La première classe comprend les corps engendrants, puis les corps engendrés, et parmi ceux-ci, les éléments. Quant à l'élément principe, quelques-uns le croient simple, quelques autres complexes, c'est-à-dire contenant et la matière et la cause de tout mouvement et les éléments dérivés. Reste la section des sciences logiques. Tout discours est ou continu ou coupé par demande et réponse. Celui-ci s'est appelé dialectique et celui-là rhétorique, laquelle s'occupe des mots, de leur sens et de leur arrangement. L'objet de la dialectique est double. Elle s'attache aux termes et à leur définition, ou, si l'on veut, au fond et à la forme des propositions. Vient ensuite une ample classification de ces deux parties, et c'est ici que je dois m'arrêter. Sur la fleur des objets, glissons d'un pas rapide. Autrement, si je voulais donner les divisions des divisions, tout cela ferait un volume. Pour toi, Lucilius, mon excellent ami, lis ces choses, je ne te le défends pas. Mais quoi que tu puisses lire, rapporte-le tout de suite aux mœurs. Ce sont tes mœurs qu'il faut discipliner. Réveille les langueurs de ton âme. Raffermis ce qui se relâche en toi. Dompte ce qui résiste et fait une guerre à outrance à tes vices et aux vices du siècle. À ceux qui te crient quoi, toujours les mêmes reproches? Réponds. C'est à moi de vous dire quoi, toujours les mêmes fautes? Voulez-vous que les remèdes cessent plutôt que la maladie? Non, je les veux répéter encore. Vous les repoussez? J'insisterai d'autant plus. La cure commence à opérer quand elle rappelle un corps en léthargie au sentiment de la douleur. En dépit de vous-même, je vous apprendrai à guérir. Plus d'une fois, mes paroles peu flatteuses frapperont vos oreilles, et la vérité que chacun de vous refuse d'ouïr, tous ensemble, vous l'entendrez. Jusqu'où reculerez-vous les bornes de vos possessions? Une terre qui contient tout un peuple est trop étroite pour un seul maître. Jusqu'où pousserez-vous vos labours, vous qui ensemencez des provinces, métairies pour vous encore trop tôt circonscrites? Des fleuves renommés arrosent durant tout leur cours une propriété privée. De grandes rivières, limites de grandes nations, de leur source à leur embouchure, sont à vous. C'est peu encore si vous ne donnez à vos domaines les mers pour ceinture, si votre fermier ne commande au-delà de l'Adriatique, de la mer d'Ionie, de la mer Égée, si des îles jadis demeure de grands capitaines, ne sont pour vous de très chétifs manoirs. Possédez tant que vous voudrez, au loin et au large. Faites un fond de terre de ce qui s'appelait un empire. Ayez à vous tout autant que vous pourrez. Toujours, il en restera plus qui ne sera point à vous. À votre tour maintenant, vous, chez qui le luxe déborde en aussi larges envahissements que chez d'autres la cupidité. Jusqu'à quand, vous dirai-je, n'y aura-t-il point de lac sur lequel le fait de vos villas ne s'élève comme suspendu, point de fleuve que ne bordent vos édifices somptueux. Partout où l'on verra sourdre un filet d'eau thermale, de nouvelles maisons de plaisir vont sortir du sol. Partout où le rivage forme en se courbant quelque sinuosité, vous y bâtissez à l'instant. Le terrain n'est point digne de vous si vous ne le créez de main d'homme, si vous n'y emprisonnez les mers. Mais en vain vos palais resplendiront-ils en tout lieu et sur ces hautes montagnes, d'où l'œil découvre au loin la terre et les flots, et au sein des plaines, d'où ils s'élèvent rivaux des montagnes. Quand vous aurez construit sans fin comme sans mesure, chacun de vous n'aura pourtant qu'un corps, et bien mince. Que vous servent tant de chambres à coucher? Vous n'aurez reposé que dans une seule. Elle n'est point vôtre, la place où vous n'êtes point. À vous ensuite, qui, pour votre table, gouffre insatiable et sans fond, faites fouiller la terre aussi bien que les mers. Hameçons, lacets, filets de tout genre font la plus laborieuse chasse à tous les animaux. Pas un n'obtient la paix que de vos dédains. De cette chair que vous apprêtent des milliers de bras, combien peu en effleurent vos lèvres, blasées de raffinement. De cette énorme bête, prise au péril de tant de vies, combien peu en goûte le patron, gonflé d'indigestion et de nausées. Ces amas de coquillages, voiturés de si loin, combien peu en reçoit cet estomac que rien n'assouvit. Malheureux, vous ne comprenez même pas que vous avez plus d'appétit que de ventre. Dis cela aux autres, de manière à l'entendre aussi toi-même. Écris-le. Mais pour te lire en écrivant, rapportant tout aux mœurs et à l'apaisement de nos fougueuses passions. Étudie, non pour savoir plus, mais pour savoir mieux. Lettre 90. Éloge de la philosophie. Les premiers hommes. La philosophie n'a pas inventé les arts mécaniques. Nul n'en peut douter, Lucilius, c'est au Dieu immortel que nous avons l'obligation de vivre, et bien vivre est un don de la philosophie. Nous lui devrons donc à elle plus qu'au Dieu, en proportion de la supériorité du bienfait, puisqu'une bonne vie l'emporte sur la vie elle-même. Oui, certes, on lui devrait davantage si cette philosophie ne venait encore des immortels. C'est un trésor qu'il n'ouvre à personne, mais dont il donne la clé à tous. S'ils en eussent fait le bien de tout le monde, et si l'on apportait la sagesse en naissant, elle perdrait son plus précieux caractère. Ce n'était plus qu'une chose fortuite. Ce qu'il y a en elle d'inestimable et de magnifique, c'est qu'elle ne vient pas spontanément, c'est qu'on la tient de soi et qu'on ne l'emprunte pas à autrui. Qu'aurais-tu à admirer dans la philosophie si elle n'était qu'un don banal? Son unique but est la vérité dans les choses divines et humaines. Toujours viennent sur ses pas la justice, le sentiment du devoir, la religion, en un mot, le cortège de toutes les vertus, enchaînées l'une à l'autre et se donnant la main. Elle enseigne le culte des dieux, l'amour des hommes, et que les premiers sont nos maîtres, les seconds nos associés. Association, quelque temps respectée, avant que la cupidité en rompît les nœuds, et devint une cause de pauvreté, pour ceux même qu'elle fit les plus riches. Car on cessa de posséder toute chose dès qu'on voulut posséder en propre. Mais les premiers mortels et les fils des premiers mortels suivaient ingénument la nature. Ils la prenaient pour guide et pour loi, en se confiant à l'autorité du meilleur d'entre eux. Car il est dans la nature que ce qui vaut le moins soit soumis à ce qui vaut le mieux. Les animaux, privés de la parole, ont pour chef le plus grand ou le plus fort de leur bande. Le taureau, qui marche en tête du troupeau, n'est point de race dégénérée. Non, c'est celui qui, par sa taille et ses muscles, l'emporte sur ses mâles rivaux. L'éléphant le plus haut de stature conduit ceux de son espèce. Chez les hommes, le plus grand, c'est le plus vertueux. Aussi était-ce, alors, ce qui faisait choisir les chefs, et la félicité des peuples était la plus grande possible, l'autorité ne se donnant qu'à la vertu. Car il peut tout ce qu'il veut, celui qui ne croit pouvoir que ce qu'il doit. Dans ce siècle appelé l'âge d'or, l'empire était donc aux sages, comme le pense Posidonius. Ils arrêtaient la violence et protégeaient le faible contre le fort. Ils exhortaient et dissuadaient. Ils signalaient l'utile et le nuisible. Leur prudence pourvoyait à ce que rien ne manquât à leur peuple. Leur valeur écartait les périls. Leur bienfaisance rendait la société prospère et brillante. Commander était une charge, non un droit. Jamais on essayait toute la force du pouvoir contre des hommes d'où le pouvoir émanait, comme aussi nul n'avait ou l'intention ou le motif de nuire. Un bon gouvernement trouvait une prompte obéissance et un roi ne pouvait faire à son peuple indocile une plus grande menace que celle d'abdiquer. Mais lorsque les sourds progrès de la corruption eurent changé en tyrannie les royautés, le besoin des lois se fit sentir, et ces lois, dans le principe, furent encore établies par les sages. Solon, qui fonda celle d'Athènes sur l'équité, est connu comme l'un des sept sages de son époque. Et si la Grèce eut alors enfanté Lycurgue, ce nombre sacré se fut enrichi d'un huitième génie. On loue encore les lois de Zaleucius et de Carondas. Ce n'est point au forum, ni dans l'école des jurisconsuls, mais dans la retraite silencieuse et révérée de Pythagore, que ceux-ci étudièrent les lois qu'ils devaient transplanter dans la Sicile alors florissante et dans l'Italie grecque. Jusqu'ici, je pense comme Posidonius. Mais que la philosophie ait inventé les arts qui sont d'un usage journalier dans la vie, je ne l'accorde pas. Je ne lui décerne pas la gloire des œuvres manuelles. Les humains dispersés, dit-il, et n'ayant d'abri qu'une excavation sous terre ou au pied d'une roche ou le creux d'un tronc d'arbre, apprirent d'elle à construire des cabanes. Pour moi, je crois que la philosophie n'a pas plus imaginé ces échafaudages de toits élevés sur des toits et de villes assises sur des villes que ces viviers tenus bien clos pour que la gourmandise ne court pas les risques des tempêtes, pour que, dans les bourrasques, même les plus violentes, la sensualité ait ses ports choisis où elle engraisse des poissons, tous parqués selon leur espèce. Qu'est-ce à dire? La philosophie a montré aux hommes à avoir clé et serrure. Qu'eût-elle fait là? Rien qu'un appel à l'avarice. La philosophie aurait, au grand péril de qui les habite, suspendu sur nos têtes ces toits menaçants. Ne suffisait-il pas du premier abri venu, de quelque retraite naturelle, trouvée sans art et sans difficulté? Crois-moi, ce siècle de bonheur a précédé les architectes. C'est quand déjà naissait le luxe que naquit l'usage et d'écarrir les pièces de bois et de faire courir la scie sur des lignes tracées d'avance qui permettent de diviser d'une main sûre. La poutre que jadis les coins seuls déchiraient. Alors, les maisons n'étaient point faites pour les salles de festin où put tenir un peuple de convives. On ne voiturait pas sur une longue file de chariots qui font trembler tout un quartier des pins et des sapins énormes où des lambris d'or massifs dussent être suspendus. Deux fourches parallèles soutenaient la cabane. Un amas de ramées et de feuilles entassées, disposées en pente, suffisait, même à l'écoulement des grandes pluies. Sous de pareils toits habitait la sécurité. Le chaume couvrit des hommes libres. Sous le marbre et l'or, loge la servitude. Je suis encore d'autre avis que Posidonius, quand il prétend que les outils en fer sont de l'invention des sages. À ce compte, il pourrait aussi leur attribuer et la toile perfide et la glu du chasseur et sa meute, des bois saignant la profondeur, toutes inventions de l'industrie humaine, non de la sagesse. Je ne pense pas non plus que ce furent les sages qui découvrirent les mines de fer et d'airain quand l'incendie des forêts calcina le sol et que les veines, gisant à sa surface, coulèrent liquéfiées. Ces choses-là sont trouvées par les mêmes gens qui les exploitent. Autre problème qui ne me semble pas aussi difficile qu'à Posidonius. L'usage du marteau a-t-il précédé celui des tenailles? Ces deux objets sont dus à quelque esprit exercé, pénétrant, plutôt que grand et élevé, et ainsi de toutes les recherches qui veulent un corps courbé vers la terre et une âme absorbée par elle. Le sage était de facile entretien. Pourquoi non? Puisqu'en nos jours même, il désire le moins d'attirail possible. Comment, je te prie, concilies-tu ton admiration pour Diogène avec celle que t'inspire Dédale? Lequel des deux te semble sage? L'inventeur de la scie, ou celui qui, voyant un enfant boire de l'eau dans le creux de sa main, brisa aussitôt son écuelle qu'il tira de sa besace, et, se reprochant sa sottise, s'écria « Comment ai-je gardé si longtemps un meuble superflu ?» Celui, enfin, qui fit d'un tonneau son logement et son lit. De nos jours, dis-moi, est-il plus sage l'homme qui trouva moyen de faire jaillir par de secrets tuyaux l'eau safranée à une immense hauteur, de remplir ou vider brusquement de leur masse d'eau des bras de mer factices, d'adapter aux salles de festin des lambris mobiles qui en renouvellent successivement la face, si bien qu'on change de plafond autant de fois que de service? Est-il plus sage que l'homme qui prouve aux autres, comme à lui-même, que la nature est loin de nous avoir rien imposé de dur et de difficile, qu'on peut se loger sans marbrier et sans sculpteur, se vêtir sans savoir commerce au pays des serfs, posséder tout ce qui est nécessaire à nos besoins en se contentant de ce que la terre offre à sa surface. Si le genre humain voulait écouter cette voix, il saurait qu'il peut aussi bien se passer de cuisinier que de soldat. Ceux-là furent les vrais sages, ou du moins le plus près de l'être, qui, presque sans frais, pourvurent à l'entretien du corps. Des soins bien simples procurent le nécessaire. C'est pour les raffinements qu'on s'épuise de travail. On n'a pas besoin d'artisans si on suit la nature. Elle n'a pas voulu nous partager entre tant de choses. En nous donnant des besoins, elle nous donne de quoi les satisfaire. Le froid est insupportable pour l'homme nu. Eh bien, est-ce que la dépouille des bêtes sauvages et autres ne suffit pas, et au-delà, pour nous garantir? Des écorces d'arbres, n'en sont-elles pas le vêtement de la plupart des races barbares? La plume des oiseaux ne se tresse-t-elle point en commodes habits? Aujourd'hui, même les sites, en grande partie, n'endossent-ils pas des fourrures de renard et de martre, molles au toucher et impénétrables au vent? Il faut bien, pourtant, repousser par la fraîcheur de l'ombre les traits brûlants d'un soleil d'été. Et quoi? Les siècles ne nous ont-ils pas préparé une foule de retraites qui, soit injure du temps, soit tout autre accident, se sont creusées en profondes cavernes? Et puis, des branches flexibles que la main façonnait en claies, qu'on enduisait d'un grossier limon recouvert de paille et d'herbes sauvages, tout cela ne fit-il pas un toit incliné où glissaient les pluies et sous lequel on passait tranquillement la saison des orages? Et enfin, les habitants des Sirtes ne se cachent-ils pas dans des trous, les ardeurs excessives du soleil ne leur laissant d'abri suffisamment compact que la terre même, toute brûlante qu'elle est? La nature n'a pas été si marâtre qu'elle ait donné à tous les autres animaux de faciles moyens d'existence quand l'homme, lui seul, ne pourrait vivre sans nos milliers d'arts. Rien de semblable n'est exigé par elle, rien qu'il doive chercher à grand-peine pour pouvoir prolonger sa vie. Tout est sous sa main dès qu'il naît. Mais nous rendons tout difficile par notre dégoût des choses faciles. Le toit et le vêtement, et les remèdes et la nourriture, et ses accessoires, devenus une si grande affaire, s'offraient gratuitement ou au prix d'une légère peine, car la mesure en tout se bornait aux exigences du nécessaire. On a tout transformé en objets coûteux, en merveilles qui veulent le concours d'arts aussi pénibles que multipliés. La nature suffit pour ce qu'elle réclame. Or, le luxe s'est écarté de la nature, le luxe qui s'aiguillonne lui-même de jour en jour, qui grandit avec les siècles, ingénieux auxiliaire des vices. Convoitant d'abord le superflu, puis le pernicieux, il a fini par faire de l'âme le sujet du corps, le valet forcé de vils appétits. Toutes ces industries qui réveillent la cité ou qui l'étourdissent s'évertuent au service du corps. Tout ce que jadis on lui donnait comme à un esclave, on le lui apprête comme à un roi. De là, fabrique de tissus, mécanique sans nombre, distillerie de parfums, professeur de poses gracieuses, de chants lubriques et efféminés. Tant nous sommes loin de cette modération naturelle qui donne au désir le besoin pour limite. C'est chose rustique et misérable que de vouloir simplement ce qui suffit. Il est incroyable, cher Lucilius, combien l'entraînement du discours éloigne du vrai même de grands esprits. Vois Posidonius, à mon avis, l'un de ceux qui ont le plus mérité de la philosophie. Il veut décrire d'abord comment se tordent certains fils, comment on ramène certains autres lâches et disjoints, ensuite comment la toile à l'aide de poids suspendus s'étend en une chaîne droite, comment la trame, introduite entre les deux parties de la chaîne dont elle surmonte la résistance, s'y mêle et s'y incorpore par la pression de la lame. Puis, il attribue aux sages jusqu'à l'art du tisserand, oubliant que, depuis, on a trouvé une méthode plus ingénieuse, suivant laquelle la navette, en courant, entrelace la trame entre deux rangs de fil sur le métier tendu, et le peigne resserre, aplanit les tissus. Et s'il avait pu y joindre ces tissus de notre époque, dont on fabrique des vêtements qui ne cachent rien, qui ne sont d'aucun secours, je ne dis pas au corps, mais à la pudeur. De là, il passe aux agriculteurs et décrit avec le même talent le soc divisant la terre et, au moyen des seconds labours, cette terre plus meuble se prêtant mieux à l'éruption des germes. Les semences confiées à son sein, la main de l'homme arrachant les herbes sauvages qui naissent d'elles-mêmes et qui étoufferaient le bon grain. C'est encore là, dit-il, l'œuvre du sage. Comme si, même à présent, les cultivateurs ne découvraient pas nombre de procédés nouveaux qui accroissent la fertilité du sol. Mais, non content de tout cela, il va jusqu'à courber le sage sur le pétrin du boulanger. Il compte en effet de quelle manière, en imitant la nature, celui-ci s'est mis à faire le pain. L'homme met un fruit dans sa bouche, ajoute-t-il. Un double rang de corps très dur, les dents, le brise sous leur pression. Ce qui en échappe leur est ramené par la langue. Alors le tout se mêle à la salive qui en facilite le passage à travers le gosier qu'elle lubrifie. Arrivé dans l'estomac et cuit par sa chaleur, il finit par s'assimiler à notre substance. À l'instar de ce mécanisme, on a placé l'une sur l'autre deux pierres brutes en guise de dents, dont la première, immobile, attend l'action de la seconde. Après quoi, par le frottement réciproque, les grains sont broyés et repoussés sous les meules, qui ne cessent de les triturer jusqu'à les réduire en poudre. Puis, il trempe d'eau sa farine, qui, façonnée et pétrie sans relâche, a formé du pain à la cuisson duquel suffirent d'abord des cendres chaudes et un âtre brûlant. Plus tard, et successivement, on imagina les fours et d'autres constructions dont la chaleur se règle à volonté. Peu s'en est fallu qu'il n'eût donné l'industrie du cordonnier comme une invention du sage. Sans doute, l'intelligence imagina toutes ces choses, mais non l'intelligence rectifiée par la philosophie. C'est à l'homme, ce n'est point au sage qu'on doit ses inventions. J'en dirai certes autant de ces vaisseaux qui servirent à passer les fleuves et les mers au moyen de voiles adaptées pour recevoir le souffle des vents, et de gouvernails placés à l'arrière pour guider dans tous les sens la course du bâtiment, modèle pris des poissons qui se dirigent à l'aide de leur queue et par une légère inclinaison, tournent leur élan à droite ou à gauche. Toutes ces inventions, dit-il, sont du sage, mais trop peu nobles pour que lui-même en tire parti. Il les transmit à de viles manœuvres. Moi, je dis plus. Elles ne furent pas imaginées par d'autres que par ceux qui, jusqu'aujourd'hui, s'en occupent. Il est des découvertes qui, nous le savons, ne datent que de notre temps, comme l'usage des pierres spéculaires dont les feuilles diaphanes transmettent la lumière dans toute sa pureté, comme les bains suspendus au-dessus de leur foyer et ces tubes appliqués dans les murs qui font circuler la chaleur et l'entretiennent de bas en haut, toujours égales. Que dirais-je des marbres dont nos temples, dont nos maisons resplendissent, et ces masses de pierres polies en colonnes, où s'appuient des portiques et des palais à recevoir des peuples entiers. Et ces caractères abrégés, au moyen desquels le discours le plus rapide est recueilli, et la main suit la célérité de la parole. Les plus vils esclaves ont trouvé tout cela. La sagesse a plus haut son siège. Elle ne fait pas l'éducation des mains. Elle est l'institutrice des âmes. Tu veux savoir ce qu'elle a découvert, ce qu'elle a produit? Ce ne sont pas des mouvements de corps déshonnêtes, ni des sons variés qui, passant de la bouche humaine par la trompette ou par la flûte, prennent à leur sortie ou dans leur trajet les inflexions de la voix. Ce ne sont pas les armes, les remparts, la guerre. Elle rêve à l'utile, plaide pour la paix et appelle le genre humain à la concorde. Elle n'est point, non, elle n'est point fabricatrice d'outils pour nos vulgaires nécessités. Quel chétif rôle tu lui assignes! Vois en elle l'artisan de la vie. Elle a d'autres arts sans doute sous sa dépendance, car celle dont la vie relève tient à ses ordres les ornements de la vie. Du reste, c'est au bonheur qu'elle tend, qu'elle nous conduit, qu'elle nous ouvre les voies. Elle montre ce qui est mal, ce qui ne l'est qu'en apparence. Elle nous dépouille de nos illusions. Elle donne la solide grandeur. Elle fait justice de la morgue, de tout ce qui est vide et spécieux. Ne nous laisse pas ignorer en quoi diffère l'enflure de l'élévation. Nous livre enfin la connaissance de toute la nature et d'elle-même. Elle révèle ce que sont les dieux et leurs attributs, les puissances infernales, les lares, les génies, les âmes perpétuées sous la forme de dieux secondaires, leur séjour, leur emploi, leur pouvoir, leur volupté. Voilà par quelles initiations elle nous ouvre non la chapelle de quelques municipes, mais l'immense temple de tous les dieux, le ciel même, dont elle a produit les vraies images et les représentations fidèles aux yeux de l'intelligence. Car, pour de si grands spectacles, les yeux du corps sont trop faibles. De là, elle revient au principe des choses, à l'éternelle raison incorporée au grand tout, à cette vertu de tous les germes qui donne à chaque être sa figure propre. Puis, elle entre dans l'étude de l'âme, de son origine, de son siège, de sa durée, du nombre de parties qui la composent. Du corporel, elle passe à l'incorporel, approfondit la vérité, les arguments qui la prouvent, et après cela, comment s'éclaircissent les problèmes de la vie et du langage. Car, dans l'une et dans l'autre, le faux se mêle au vrai. Le sage, je le répète, ne s'est point attaché aux arts matériels comme il semble à Posidonius. Il ne les a nullement abordés. Jamais il n'eût cru digne des frais d'invention ce qu'il ne pouvait croire digne de servir à tout jamais. Il n'adopterait point pour répudier. Anacharsis, dit Posidonius, a trouvé la roue du potier qui, en tournant, forme des vases. Ensuite, comme dans Homère, se rencontre cette roue du potier, il aime mieux croire les vers apocryphes que son assertion erronée. Je ne prétends pas, moi, qu'Anacharsis soit l'auteur de cette découverte, ou s'il l'est, ce sera bien un sage qui l'aura faite, mais non à titre de sage, de même que les sages font beaucoup de choses comme hommes et non point comme sages. Imagine un sage excellent coureur. Il devancera les autres en vertu de sa légèreté, non de sa sagesse. Je voudrais que Posidonius put voir le verrier donner au verre avec son souffle une multitude de formes que la plus habile main aurait peine à produire. On a trouvé cela depuis qu'on ne trouve plus de sages. Démocrite, poursuit-il, a, dit-on, inventé les voûtes de pierre qui se courbent en arceaux doucement inclinés et réunies par une pierre centrale. Je dirais que le fait est faux, car nécessairement avant Démocrite, il y eut des ponts et des portes, dont généralement la partie supérieure est en voûte. « Avez-vous oublié, me dit-on, que ce même Démocrite trouva l'art d'amollir l'ivoire, de convertir par la cuisson le caillou en émeraude, procédé qui, aujourd'hui encore, sert à colorer certaines pierres qui s'y prêtent. Oui, mais bien qu'un sage ait trouvé ces secrets, ce n'est pas en tant que sage qu'il les a trouvés. Car il fait beaucoup de choses que les hommes les moins éclairés font sous nos yeux tout aussi bien, ou avec plus d'adresse et d'expérience que lui. Tu veux savoir quelles furent les explorations du sage, quels mystères il nous dévoila? D'abord, ceux de la nature qu'il n'a pas vus, comme font les autres animaux, d'un œil insoucieux des choses divines. Ensuite, la loi de la vie, loi qu'il a appliquée à tout. Il nous a appris non seulement à connaître les dieux, mais à leur obéir et à recevoir les événements comme des ordres. Il nous a défendu de céder au jugement de l'erreur. Il a estimé au poids de la vérité ce que vaut chaque chose. Il a condamné les jouissances mêlées de repentir et loué les bienfaits pour toujours plaire. Il a signalé à tous, comme le plus fortuné des hommes, celui qui n'a pas besoin de la fortune, comme le plus puissant, celui qui sait l'être sur lui-même. Je ne parle pas de cette philosophie qui place le citoyen hors de la patrie et les dieux hors du monde, qui donne la vertu en apanage à la volupté, mais de celle qui ne voit de bien que l'honnête, de celle que les présents ni de l'homme ni de la fortune ne séduiraient point, de celle dont le prix consiste à ne pouvoir se vendre à aucun prix. Que cette philosophie ait existé dans l'âge grossier où toute industrie manquait encore et où l'utile ne s'apprenait que par l'usage, je ne le crois pas. De même, avant cette époque, au temps heureux où les bienfaits de la nature étaient à la portée et à la discrétion de tous, avant que la cupidité et le luxe eussent désuni les mortels, qui coururent à la rapine au lieu de partager en frères, il n'y avait pas de vrais sages, bien que tous firent alors ce que des sages devaient faire. Car jamais situation plus admirable pour la race humaine ne peut s'imaginer. Et qu'un dieu permette à un homme de créer une terre et de régler la condition de ses habitants, il ne choisira pas autre chose que ce qu'on raconte de ces peuples primitifs chez lesquels jamais d'enclos, de bornes, de partage. La terre était de tous le commun héritage, et sans qu'on l'arrachât prodigue de son bien, la terre donnait plus à qui n'exigeait rien. Quelle génération fut plus heureuse? Ils jouissaient en commun de la nature. Elle suffisait, en bonne mère, à l'entretien de tous. On possédait la publique richesse en pleine sécurité. Comment ne pas nommer les plus opulents des mortels, ceux parmi lesquels un pauvre était impossible à trouver? L'avarice a fait éruption sur cette trop heureuse abondance. Comme elle voulut distraire une part qui lui devint propre, le trésor de tous cessa d'être le sien, et de l'immense fleuve, elle s'est réduite à un filet d'eau. Elle a introduit la pauvreté. Aspirant à beaucoup, elle a vu tout lui échapper. Aussi, quoiqu'aujourd'hui elle se travaille en tous sens pour réparer ses pertes, quoiqu'elle ajoute des champs à ses champs et dépossède le voisin à force d'or ou d'injustice, quoiqu'elle donne à ses terres l'étendue de province, et que posséder pour elle ce soit voyager bien loin sur le sien, aucun prolongement de limite ne nous ramènera au point dont nous sommes descendus. quand nous serons à bout d'envahir, nous aurons beaucoup. Nous avions tout auparavant. La terre elle-même était plus fertile sans culture et se prodiguait aux besoins des peuples qui ne la pillaient point à l'envi. Découvrir quelques productions de la nature n'était pas un plus grand plaisir que celui de l'indiquer à autrui. Nul ne pouvait avoir trop ou trop peu. La concorde présidait au partage. La main du plus fort ne s'était point encore appesantie sur le plus faible. Point d'avare qui, se lant des trésors inutiles pour lui, priva personne du nécessaire. On prenait le même souci des autres que de soi. La guerre était inconnue, et les mains pures du sang des hommes. On n'en voulait qu'aux bêtes féroces. Quand l'épaisseur du bocage voisin pouvait garantir du soleil, et qu'on bravait l'inclémence des hivers ou des pluies sous l'abri naturel d'un toit de feuilles, la vie coulait paisible, et les nuits étaient sans cauchemar. Tandis que les soucis nous retournent sur nos lits de pourpre et nous réveillent de leurs poignants aiguillons. Quel doux sommeil ces hommes goûtaient sur la dure. Ils n'avaient point au-dessus d'eux des lambris ciselés, mais sans obstacle, ils voyaient de leur couche les astres glisser sur leur tête et le sublime spectacle des nuits menant en silence la grande révolution du ciel. À toute heure du jour et de la nuit s'ouvrait pour eux la perspective de cette merveilleuse demeure. Ils se plaisaient à voir une partie des astres décliner du milieu du ciel vers l'horizon, et d'autres, à l'opposite, se rendre visibles et monter. Avec quel charme ils promenaient leurs yeux dans cette immensité semée de prodiges. Mais vous, le moindre bruit de vos plafonds vous alarme. Et si entre vos riches peintures quelque craquement se fait entendre, vous fuyez comme si c'était la foudre. Au lieu de palais grands comme des villes, un air pur, circulant librement et à ciel ouvert, l'ombre légère d'un rocher ou d'un arbre, de limpides fontaines, des ruisseaux que ni travail humain, ni tuyaux, ni direction forcée n'avaient profanés, mais qui suivaient leur cours volontaire, et des prairies belles sans art, et au milieu de tout cela un toit agreste, élevé par une rustique main, c'était là une demeure selon la nature, où l'on aimait à habiter sans la craindre et sans craindre pour elle. Aujourd'hui, un de nos grands sujets de frayeur, ce sont nos maisons. Mais, toute belle et toute pure de fraude qu'ait été leur vie, ces mortels ne furent point des sages, non qui n'est dû qu'à la perfection même. Je ne nie point, toutefois, qu'il n'y eut alors des hommes d'une haute inspiration et comme fraîchement sortis de la main des dieux, car il est hors de doute que le monde, non encore épuisé, enfantait des âmes plus généreuses. Or, si elles étaient toutes de trempes plus fortes et plus aptes aux travaux, elles n'avaient point toutes atteint le point suprême. La nature, en effet, ne donne point la vertu. C'est un art que d'y arriver. On ne cherchait pas l'or, ni l'argent, ni les pierres transparentes dans les abîmes fangeux de la terre. On épargnait l'animal inoffensif, tant l'homme était loin d'égorger l'homme, sans colère ni crainte, pour le seul plaisir d'un spectacle. Il n'avait point encore de vêtements brodés ni de tissus d'or. L'or n'était point sorti des mines. Pour tout dire, enfin, son ignorance faisait son innocence. Or, la distance est grande entre ne pas vouloir et ne pas savoir faire le mal. Il lui manquait la justice, il lui manquait la prudence, la tempérance, le vrai courage. Il y avait quelque image de ses vertus dans leur vie d'inexpérience. Mais la vertu n'est donnée aux âmes qu'après la culture et la science, et quand d'assidus exercices les ont perfectionnées. Nous naissons pour elles, mais sans elles. Et le meilleur naturel, avant qu'on ne l'instruise, est un élément de vertu, mais n'est point la vertu. Lettre 91. Sur l'incendie de Lyon, l'instabilité des choses humaines et la mort. Notre ami Libéralis est aujourd'hui bien triste. Il vient d'apprendre qu'un incendie a consumé entièrement la colonie de Lyon. Catastrophe faite pour émouvoir les plus indifférents. À plus forte raison, un homme qui aime tant son pays. Aussi ne peut-il retrouver la fermeté d'âme dont il a dû travailler à se munir contre les accidents qu'il jugeait possibles. Mais pour ce coup si imprévu, et peu s'en faut inouï, je ne m'étonne pas qu'il fût sans crainte quand la chose était sans exemple. Car, si la flamme a maltraité bien des villes, elle n'en a fait disparaître aucune. Même dans celles où la main de l'ennemi lance le feu sur les habitations, il s'éteint en nombre d'endroits. On a beau par moments l'attiser, rarement il dévore tout au point que le fer n'ait plus rien à achever. Et les tremblements de terre, presque aucun n'est assez violent, assez destructeur, pour renverser des villes tout entières. Jamais, en un mot, n'éclata si funeste incendie qui ne laissa matière pour un autre. Or, tant de superbes édifices, dont chacun ferait l'honneur d'une cité, qu'une nuit les a jetés par terre, et, dans une paix si profonde, ce que la guerre même ne saurait faire craindre, a fondu sur eux. Qui le croirait? Dans le silence universel des armes, quand par toute la terre régnait la sécurité, Lyon, que la Gaule montrait avec orgueil, on cherche où fut sa place. À tous ceux qu'un fléau public doit abattre, la fortune donne le temps d'appréhender ses coups. Toute grande catastrophe laisse un répit quelconque avant de se consumer. Ici, il n'y eut que l'espace d'une nuit entre une puissante ville et plus rien. Que dis-je? Elle a péri en moins de temps que je ne le raconte. Tout cela brise le cœur patriotique de notre Libéralis, pour lui-même si ferme et si résolu. Ce n'est pas à tort qu'il est bouleversé. L'inattendu accable davantage, et leur étrangeté augmente le poids des infortunes. Point de mortel chez qui la surprise même n'ajoute à l'affliction. Aussi n'est-il rien qu'on ne doive prévoir, rien où d'avance on ne doive se placer en esprit. Il faut prévoir non seulement l'habituel, mais tout le possible. Car qu'y a-t-il que la fortune ne précipite, dès qu'il lui plaît, de l'état le plus florissant, et qu'elle n'attaque et ne brise d'autant mieux qu'il se pare d'un plus bel éclat? Qu'y a-t-il, pour elle, d'inaccessible ou de difficile? Ce n'est pas toujours par une seule voie, ni avec toutes ses forces qu'elle se rue sur nous. Tantôt, armant nos mains contre nous-mêmes, tantôt, contente de son seul pouvoir, elle fait naître le péril où l'écueil n'était point. Elle n'accepte aucun temps. De la volupté même, elle fait éclore la douleur. La guerre surgit du milieu de la paix, et les secours qui rassuraient se transforment en objet d'alarme, l'ami en adversaire, l'allié en ennemi. de soudaines tempêtes plus terribles que celles des hivers, éclatent par le calme d'un beau jour d'été. Sans ennemis, que d'hostilité on y suit. Ce qui crée le désastre, à défaut d'autre cause, c'est l'excès de prospérité. La maladie atteint le plus tempérant, la phthisie le plus robuste, la condamnation le plus innocent, les troubles du monde le plus solitaire des hommes. Toujours le sort, comme craignant notre oubli, trouve un nouveau moyen de nous faire sentir sa puissance. Tout ce qu'une longue suite de travaux constants, aidés de la constante faveur des dieux, réussit à élever, un seul jour le brise et le disperse. C'est donner un terme trop long à ces révolutions rapides que de parler d'un jour, une heure, un moment, a suffi au renversement des empires. Ce serait une sorte de consolation pour notre fragilité, comme pour celle des choses qui nous touchent, si tout était aussi lent à périr qu'à croître. Mais le progrès veut du temps pour se développer. La chute vient au pas de course. Rien chez l'homme privé, rien dans l'État n'est stable. Hommes et villes ont leur jour fatal qui s'approche. Sous le plus grand calme couve la terreur, et quand rien au dehors n'est gros de tempête, elles s'élancent d'où on les attend le moins. Des royaumes que les guerres civiles, que les guerres étrangères avaient laissés debout, s'écroulent sans que nulle main les pousse. Est-il beaucoup d'États qui se soient toujours maintenus prospères? Donc, il faut s'attendre à toute chose et affermir son âme contre les chocs qu'elle pourra subir. Exil, torture, guerre, maladie, naufrage, pensons à tout cela. Le sort peut ravir le citoyen à la patrie, ou la patrie au citoyen. Il peut le jeter sur une plage déserte. Ces lieux mêmes où s'étouffe la foule peuvent se changer en un désert. Mettons sous nos yeux toutes les chances de l'humaine condition. Pressentons par la pensée, je ne dis point les événements ordinaires, mais tous ceux qui sont possibles, si nous voulons n'être pas accablés et ne jamais voir dans la rareté du fait une nouveauté qui stupéfie. Envisageons la destinée sous toutes ses faces. Que de villes dans l'Asie, dans la caille, un tremblement du sol a jeté bas. Combien, en Syrie, en Macédoine, furent engloutis. Combien de fois Chypre fut dévastée par le même fléau. Que de fois Paphos croula sur elle-même. Fréquemment, nous reçûmes la nouvelle de villes entières anéanties. Et nous-mêmes, qui apprenons ces choses, quelle faible parcelle nous sommes du grand tout. Roidissons-nous donc contre le hasard, et, quoi qu'il nous amène, sachons que le mal n'est pas si grand que le bruit qu'en fait l'opinion. La flamme a détruit cette ville opulente. L'ornement des provinces, où elle était à la fois enclavée et distincte, assise sur une seule montagne qui n'était pas fort haute. Eh bien, toutes les cités, dont la magnificence et la gloire retentissent maintenant à nos oreilles, le temps en balayera jusqu'aux vestiges. Ne vois-tu pas comme en Achaïe il a déjà consumé les fondements des plus illustres villes, et qu'il n'y reste rien qui annonce même qu'elles aient existé? Non seulement les œuvres de nos mains s'en vont en poussière, non seulement tout ce que l'art et l'industrie humaine établissent est bouleversé par les âges, mais la cime des monts s'affaisse, des contrées entières s'abîment. Les flots viennent couvrir des lieux placés loin de l'aspect des mers. Le feu a dévasté des collines le long desquelles il brillait dans nos demeures. Il a rongé ces crêtes, jadis si élevées, dont la vue récréait le navigateur. Il a rabaissé les plus hauts postes d'observation au niveau du sol. Quand les créations de la nature sont ainsi maltraitées, ne doit-on pas souffrir, avec résignation, la destruction des villes? Rien n'est debout que pour tomber, et la même fin attend hommes et choses, soit qu'une force intérieure, un vent privé d'issue, secoue violemment le poids qui le tient captif, soit que des torrents cachés sous nos pieds, le plus fort, viennent à briser tout obstacle, soit que des flammes impétueuses aient crevé la charpente du globe, soit que la vétusté, que rien ne brave, ait insensiblement tout miné, soit que l'insalubrité du climat ait chassé les peuples et fait de l'inculte désert un foyer de pestilence. Énumérer toutes les causes de destruction serait chose trop longue. Ce que je sais, c'est que toute œuvre des mortels est condamnée à mourir. Nous vivons entourés d'objets périssables. Voilà, entre autres discours, les consolations que je présente à notre libéraliste qui brûle d'un incroyable amour pour sa patrie. Et cette patrie, peut-être, n'a été consumée que pour renaître plus brillante. Souvent, le dommage a préparé la place à une situation meilleure. Bien des choses sont tombées pour se relever plus grandes et plus belles. Timagène, cet ennemi de la prospérité de Rome, disait « Si les incendies de cette ville me font peine, c'est que je sais que ces débris ressusciteront en meilleur état qu'auparavant. » Et Lyon aussi, tous vraisemblablement, s'empresseront à l'envie de la rétablir plus grande et mieux garantie qu'avant le désastre. Puisse-t-elle être durable et sous de meilleurs auspices se fonder pour un plus long avenir? Car cette colonie, depuis son origine, ne compte que 100 ans, ce qui n'est pas, même pour l'homme, le terme le plus reculé. Établi par Plancus, les avantages du lieu l'avaient fait jusqu'ici croître en population, bien que, dans l'espace d'une vie de vieillard, elle eût souffert de très graves échecs. Formons notre âme à l'intelligence de son sort et à la résignation. Sachons qu'il n'est rien que n'ose la fortune, qu'elle a sur les empires les mêmes droits que sur leurs chefs, qu'elle peut contre les villes tout ce qu'elle peut contre les hommes. Rien ne doit là nous indigner. Tel est le monde où nous sommes entrés, telles les lois sous lesquelles on y vit. Te plaisent-elles? Soumets-toi. Ne te plaisent-elles point? Sors par où tu voudras. Indigne-toi si cette constitution n'est injuste que pour toi seul. Mais si la même nécessité enchaîne grands et petits, réconcilie-toi avec le destin qui condamne tout à se dissoudre. Ne nous mesure pas à nos tombeaux, ni à ces monuments plus ou moins riches qui bordent nos grandes voies. Notre cendre à tous est pareille. Nés inégaux, nous mourrons dans l'égalité. Je dis des villes ce que je dis de leurs habitants. Rome a été prise aussi bien qu'Ardée. Le grand législateur de l'humanité ne nous distingue par la naissance et l'éclat de nos noms que pour le temps de cette vie. Mais arrive-t-on au point où tout mortel finit? Hors d'ici, dit-il, vanités humaines, que tout ce qui pèse sur la terre subisse la même loi. Nous sommes égaux devant toutes les souffrances. Nul n'est plus fragile qu'un autre. Nul n'est plus qu'un autre assuré de vivre demain. Alexandre, roi de Macédoine, commençait l'étude de la géométrie. Le malheureux, Il allait savoir combien est petit ce globe dont il n'avait conquis qu'une bien faible part. Malheureux, dis-je, il allait sentir la fausseté du surnom qu'il portait. Car qui peut être grand sur un mince théâtre? Ces leçons étaient fort abstraites et exigeaient une attention soutenue. Elles n'étaient pas faites pour entrer dans une tête insensée dont les rives s'égaraient par-delà l'océan. Il s'écria « Enseigne-moi des choses plus faciles. » « Elles sont pour vous, dit le maître, comme pour tout le monde, également difficiles. » Prenons que la nature nous tient même langage. Les choses dont tu te plains existent pour tous. Je ne puis les offrir plus faciles à personne. Mais quiconque le voudra saura tout seul se les rendre aisés. Comment ? Par égalité d'âme. Il faut que tu pleures, que tu aies soif, que tu aies faim, que tu vieillisses, si tu es gratifié d'un plus long séjour chez les hommes, que tu sois malade, que tu perdes, que tu périsses. Ne va pas, toutefois, croire aux plaintes qui retentissent autour de toi. Rien dans tout cela n'est mal. Rien n'est intolérable ou trop dur. Il n'y a là que peur de convention. En craignant la mort, c'est un bruit public que tu crains. Et quoi de moins sensé qu'un homme qui effraie de simples paroles? Démétrius, notre ami, a coutume de dire plaisamment « Je fais autant de cas des propos des ignorants que des vents qui s'échappent de leurs entrailles. Que m'importe en effet que le son vienne d'en haut ou d'en bas. Quelle folie de craindre d'être diffamé par des infâmes. Comme on a sans doute redouté ce qui n'était qu'un bruit, on a pris peur de choses qui jamais n'alarmeraient si le bruit public ne le voulait ainsi. Un homme de bien perd-il le moins du monde à ce que des rumeurs calomnieuses pleuvent sur lui? Aux vaines rumeurs, la mort elle-même ne doit rien perdre auprès de nous. Elle aussi a mauvais renom. Nul de ceux qui l'accusent n'en a fait l'épreuve, et il est toujours téméraire de condamner ce qu'on ne connaît pas. Du moins, tu sais à combien d'hommes elle rend service, combien elle en arrache au tourment, à l'indigence, aux lamentations, aux supplices, à l'ennui. L'homme n'est au pouvoir de personne dès que la mort est en son pouvoir. Lettre 92. Contre les épicuriens, le souverain bien n'est pas dans la volupté. Tous deux, je pense, nous serons d'accord sur ce point, que les choses extérieures se recherchent pour le corps, qu'on soigne le corps en considération de l'âme, que l'âme a ses ministres partis d'elle-même, à l'aide desquels l'homme se meut et se nourrit, et qu'il doit subordonner à la partie raisonnable. Dans celle-ci se trouvent l'irraisonnable et le raisonnable. Le premier obéit au second qui seul, sans se rattacher ailleurs, rattache tout à lui. Car la divine raison elle-même commande à toute chose et n'est sujette de quoi que ce soit. Or, la raison de l'homme est de même nature, elle vient de la raison divine. Si nous sommes d'accord sur ce point, par voie de conséquence, nous conviendrons aussi qu'en une seule chose réside la vie heureuse, savoir dans une raison parfaite. Car elle seule ne laisse point flétrir le courage et tient bon contre la fortune. C'est d'elle qu'en toute conjoncture nous vient la sécurité, le salut et le caractère du vrai bien et de ne jamais être entamé. Celui-là, dis-je, est heureux que rien ne peut amoindrir. Il est au fait des choses et ne s'appuie que sur lui-même. Car quiconque s'étaye de quelque support peut tomber. Autrement, on commence à tenir grand compte de ce qui n'est point à soi. Or, qui voudrait ne relever que de la fortune? Quel homme de sens se glorifie de ce qui lui est étranger? Qu'est-ce que la vie heureuse? C'est la sécurité et la permanence dans le calme. Ce qui donne cela, c'est une âme grande, c'est la constance qui maintient ce que la justice a décidé. Mais comment acquérir ces vertus? Il faut avoir étudié la vérité sous tous ses aspects et garder dans nos actions l'ordre, la mesure, la convenance, une volonté inoffensive et bienveillante, toute à la raison, dont jamais elle ne se départ, et digne à la fois d'amour et d'admiration. Enfin, pour te tracer la règle en deux mots, l'âme du sage doit être telle que pourrait être l'âme d'un dieu. Que peut désirer l'homme qui possède tout ce qui est honnête? Car si ce qui n'est point honnête pouvait, en quelque chose, contribuer au bien suprême, le bonheur serait dans des choses avec lesquelles il n'est point. Et quoi de plus insensé ou de plus honteux que de rattacher le bonheur d'une âme raisonnable à ce qui n'a point de raison? Quelques-uns pourtant jugent que le souverain bien peut s'accroître, vu qu'il n'atteint point à sa plénitude si l'extérieur lui est contraire. Antipater, aussi, l'une des graves autorités de notre secte, dit qu'il accorde quelque influence à l'extérieur, mais fort peu. Or, que penser d'un homme à qui ne suffit pas la clarté du jour, s'il n'y joint celle de quelques bougies? Auprès des splendeurs du soleil, de quelle importance peut être une étincelle? Si l'honnête homme tout seul ne te satisfait pas, nécessairement, tu y voudras joindre ou le repos ou la volupté. Le premier, à la rigueur, peut s'admettre, car l'âme du sage est exempte de contrariété. Elle a toute liberté d'étudier l'univers et rien ne l'enlève à la contemplation de la nature. Quant au second point, la volupté, c'est le bonheur de l'animal. Vous alliez la raison à son contraire, l'honnête à ce qui ne l'est pas. Grande est, selon vous, la volupté que donne le chatouillement des sens. Pourquoi n'osez pas dire que tout est bien pour l'homme si son palais est satisfait? Et vous comptez, je ne dis pas comme homme de cœur, mais comme homme, celui pour qui le bien suprême est dans les saveurs, les couleurs, les sons. Excluons-le de la noble classe qui, après les dieux, marche la première, qu'il aille grossir le troupeau des brutes, l'être qui fait de sa pâture toute sa joie. La partie irraisonnable de l'âme se divise en deux autres. La première, ardente, ambitieuse, violente, tout entière aux passions. La seconde, basse, languissante, que la volupté a servie. La partie effrénée, meilleure toutefois que l'autre, est certes plus courageuse et plus digne de l'homme, on n'en a pas tenu compte, on a cru indispensable au bonheur la partie débile et abjecte. On a voulu lui assujettir la raison et le bien du plus généreux des êtres. On en a fait un bien dégradé et ignoble, pétri, en outre, d'un alliage monstrueux, de membres tout divers et mal concordants. car, comme dit notre Virgile parlant de Sylla, juste au-dessous du sein, son visage, son corps, représente une vierge au séduisant dehors. Ses flancs offrent aux yeux la louve, la baleine, et sa queue en dauphin se recourbe et se traîne. À cette Sylla, du moins, sont adaptés des animaux féroces, effroyables, agiles. Mais de quel monstre a-t-on composé la sagesse? La partie supérieure de l'homme, c'est la vertu. Elle a pour associée une chair incommode et molle, qui n'est propre qu'à absorber des aliments, comme dit Posidonius. Cette vertu divine se termine par de lascifs organes. À cette tête vénérable et céleste est accolé un animal inerte et flétri. Le repos des épicuriens, si profond qu'il soit, ne procurait déjà nul avantage à l'âme, mais il écartait d'elle les embarras. Voici venir la volupté qui la dissout, qui en énerve toute la force. Où trouver un assemblage de corps si antipathique? La vigueur accouplée à la faiblesse, la frivolité au sérieux, la sainteté même à l'incontinence, à l'inceste. Et quoi, dit-on, si la bonne santé et le repos et l'absence de douleur ne doivent empêcher en rien la vertu, ne les rechercherez-vous pas? Pourquoi non? Je les rechercherai, non qu'elles soient des biens, mais parce qu'elles sont selon la nature, et que j'y mettrai du discernement. Qu'y aura-t-il alors de bon en elles? Rien que le mérite d'un bon choix. Quand je porte un habit décent, quand mon allure, si je marche, est convenable, quand je soupe comme il sied que je le fasse, ce n'est ni le souper, ni la promenade, ni l'habit qui est un bien, mais le but quand tout cela je me propose, qui est de garder en tout la mesure qui exige la raison. J'ajouterai ceci encore. Le choix d'un vêtement propre est désirable pour l'homme, car l'homme, de sa nature, est ami de la propreté, de l'élégance. Ainsi, ce qui est bien par soi-même, ce n'est pas un vêtement propre, c'est le choix de ce vêtement. Le bien n'étant pas dans la chose, mais dans le discernement qui fait que nos actions sont honnêtes, non la matière de nos actions. Ce que j'ai dit du vêtement, je le dis du corps, crois-le bien. Car la nature en a enveloppé l'âme comme d'un vêtement qui la voile aux yeux. Or, estime-t-on jamais l'habit par le coffre où il est serré? Le fourreau ne rend l'épée ni bonne ni mauvaise. À l'égard du corps, je te réponds de même. Je le prendrai, si je puis choisir, et sain et robuste. Mais le bien sera dans mon choix, non dans la force ou la santé. Sans doute, dira-t-on, le sage est heureux, mais le bonheur complet lui échappe s'il n'en possède aussi les instruments matériels. De cette sorte, on ne peut être malheureux avec la vertu, mais on n'est pas au fait du bonheur lorsque les biens physiques nous manquent, comme la santé et l'intégrité des organes. Ce qui paraît le moins admissible, tu l'accordes. Savoir qu'un homme en proie à d'extrêmes et continuelles douleurs n'est pas à plaindre, qu'il est même heureux, est une la conséquence, bien moindre, qu'il le soit parfaitement. Cependant, si la vertu peut faire qu'un homme ne soit pas malheureux, bien plus aisément complétera-t-elle son bonheur. Car il reste moins d'intervalle entre l'heureux et le très heureux qu'entre le misérable et l'heureux. Quoi? La puissance capable d'arracher l'homme aux calamités pour le mettre au rang des heureux ne saurait achever son œuvre et l'élever au bonheur suprême? Elle fléchit quand elle touche au sommet. La vie a ses avantages et ses désavantages. Les uns et les autres sont hors de nous. Si l'homme de bien n'est point misérable, eût-il à subir tous les désavantages, comment cesse-t-il d'être très heureux si quelques avantages l'abandonnent? Comme en effet le poids des uns ne le précipite pas jusque dans le malheur, de même la privation des autres ne l'arrache point à sa félicité. Elle reste alors aussi complète que son malheur est nul dans le premier cas. Car autrement, on peut lui ravir son bonheur si on peut lui diminuer. Je disais tout à l'heure que la nature d'une bougie n'ajoute rien aux clartés du soleil dont la splendeur efface tout ce qui sans lui aurait de l'éclat. Mais il est des choses qui s'interposent entre le soleil et nous. Oui, et la force de ses rayons demeure entière, au milieu de ces obstacles mêmes. Et malgré l'intermédiaire qui nous en dérobe l'aspect, il est à son œuvre et poursuit sa course. Lorsqu'il luit au sein des nuages, il n'est pas moindre que par un beau ciel, ni plus lent dans sa marche. Car il y a grande différence entre un obstacle et l'empêchement absolu. De même, ce qui fait obstacle à la vertu ne lui enlève rien. Elle n'est point moindre, mais elle brille moins. À nos yeux, peut-être, ne paraît-elle pas aussi éclatante, aussi pure. Et comme l'astre éclipsé, son influence voilée agite encore. Ainsi, calamité, perte, injustice sont aussi impuissantes contre la vertu qu'un léger nuage contre le ciel. Nous trouvons des gens qui nous disent que le sage mal partagé corporellement n'est ni malheureux ni heureux. Ceux-là aussi se trompent. Ils mettent les avantages fortuits au niveau des vertus et n'accordent pas plus aux choses honnêtes qu'à celles qui le sont moins. Or, quoi de plus indigne, de plus révoltant que de comparer des choses respectables à celles qui méritent le dédain. La vénération est due à la justice, à la piété, à la loyauté, au courage, à la prudence. Ce qui est vil au contraire, c'est ce dont souvent les plus vils mortels sont le plus largement pourvus. La jambe solide et les bras et les dents, tout cela sain et à l'épreuve. Mais d'ailleurs, si le sage avec une santé fâcheuse, ne doit passer ni pour malheureux ni pour heureux, et qu'on le laisse sur la ligne mitoyenne, sa vie non plus ne sera ni à désirer ni à fuir. Et qu'y a-t-il de si absurde que ceci? La vie du sage n'est pas à désirer. Ou de si incroyable que de prétendre qu'il y a telle vie qui n'est ni à désirer ni à fuir. Et puis, si les incommodités physiques ne rendent pas malheureux, elles permettent d'être heureux. Ce qui n'a pas la puissance de me faire passer dans un état pire ne peut m'interdire le meilleur état. Le froid et le chaud, répond-on, sont deux choses connues dont le moyen terme est le tiède. Ainsi, tel est heureux, tel misérable, tel enfin n'est ni l'un ni l'autre. Je veux faire justice de cette comparaison qu'on nous oppose. Si j'ajoute un degré de froid au tiède, il deviendra froid. Un degré de chaud, il finira par être chaud. Mais l'homme, qui n'est ni misérable ni heureux, quelque élément de misère que je lui apporte, ne sera pas misérable. Vous-même vous le dites. La comparaison est donc inexacte. Enfin, je vous livre un homme qui n'est ni misérable ni heureux. Je le frappe de cécité, sans qu'il soit misérable. De paralysie, il ne l'est point encore. De douleur continuelle et grave, il ne l'est pas davantage. Si tant de maux ne sauraient le faire malheureux, ils ne le font même pas déchoir du bonheur. si le sage ne peut tomber, comme vous le dites, du bonheur dans la misère, il ne tombera pas dans la privation du bonheur. Car pourquoi de si beaux commencements s'arrêterait-il à un point quelconque? Ce qui l'empêche de rouler jusqu'en bas le retient au sommet. Comment le bonheur ne serait-il pas indivisible? Il ne peut même être discontinu. C'est pourquoi la vertu suffit d'elle-même à le produire. Quoi ? S'écrie-t-on ? Un sage comblé de jours, qu'aucune douleur n'a traversé, n'est pas plus heureux que celui qui a toujours lutté contre la mauvaise fortune ? Qu'on me réponde si le second est meilleur et plus vertueux que le premier. S'il n'en est rien, il n'est pas plus heureux. Il faut que sa vie soit plus pure pour qu'elle devienne plus heureuse. Elle ne le devient qu'à ce prix. La vertu ne saurait s'accroître, ni par conséquent le bonheur qui vient d'elle. La vertu est un si grand bien qu'elle ne sent point tous ces petits accidents tels que la brièveté de la vie, la douleur, les diverses incommodités du corps. Car, pour la volupté, elle ne mérite pas même un de ses regards. Quel est le plus beau privilège de la vertu? De n'avoir nul besoin de l'avenir, de ne point compter le nombre de ses jours. Le plus court espace du temps lui complète un bonheur sans fin. Cela nous paraît hors de toute croyance et dépasser les limites de notre nature, car cette majestueuse vertu, nous la mesurons à notre faiblesse, et c'est à nos vices mêmes que nous appliquons le nom de vertu. Mais ne semble-t-il pas aussi incroyable qu'un homme, au fort des plus vives douleurs, s'écrie « Je suis heureux » Pourtant, c'est dans l'officine même de la volupté que ce mot-là s'est fait entendre. Voici le dernier et le plus heureux jour de ma vie, disait Épicure, quand d'une part des embarras de vessie le torturaient, et que de l'autre un incurable ulcère lui rongeait les entrailles. Pourquoi donc ne pas croire à de pareils traits venant d'hommes qui vouent leur culte à la vertu, quand on les trouve jusque chez ceux qui prirent la volupté pour souveraine? Oui, même ces âmes dégénérées, si peu élevées dans leurs sentiments, soutiennent qu'aucun d'extrême douleur, d'extrême calamité, le sage ne sera ni heureux ni malheureux. Toutefois, cette assertion aussi est incroyable, plus incroyable que la nôtre. Car je ne vois pas comment ne tomberait point jusqu'au plus bas degré la vertu une fois renversée de son trône. Ou elle doit donner le bonheur, ou si elle perd cette prérogative, elle n'empêchera point le malheur. Tant qu'il se tient debout, l'athlète n'est pas renvoyé du combat. Il faut qu'il soit vainqueur ou vaincu. Mais ce n'est que pour les dieux immortels que la vertu et le bonheur sont faits. Nous n'avons de ces biens que l'ombre et qu'une sorte d'image. Nous en approchons sans y atteindre. Je réponds que la raison est commune aux dieux comme à nous. Seulement chez eux, elle est parfaite, chez nous, perfectible. Mais ce qui nous amène à désespérer, ce sont nos vices. L'homme faible n'est au second rang que par son peu de persistance à observer les meilleurs principes, et parce que son jugement chancelle encore incertain. Il a besoin que sa vue et son ouïe soient bonnes, sa santé satisfaisante, son extérieur non disgracieux, et qu'il se maintienne dispos de tous ses membres, et puis que sa carrière soit longue. Ainsi pourra-t-il ne point se repentir de la vie. Ce demi-sage garde en lui un levain de malignité qui tient à sa mobilité d'âme. Ce fond de malice qui ne le quitte point le pousse à violer la règle et l'agite et l'éloigne du bien. Il n'est pas encore vertueux, il s'essaye à l'être. Or, quiconque ne les passe sans restriction n'est qu'un méchant. Mais un cœur généreux qui habite la vertu est l'égal des dieux. C'est vers eux qu'il s'élève, car il a souvenir de son origine. Ce n'est jamais une témérité de vouloir remonter au lieu d'où l'on est descendu. Et pourquoi ne pas voir quelque chose de divin dans l'être qui est une parcelle de la divinité? Ce grand tout, dans lequel nous sommes compris, est un, et cet un est Dieu. Nous sommes ses associés, nous sommes ses membres. L'esprit de l'homme qui embrasse tant de choses s'élève jusqu'à lui, si les vices ne dépriment point son essor. Et comme l'attitude de son corps est droite et ses yeux tournés vers le ciel, de même son esprit, qui peut s'étendre aussi loin qu'il lui plaît, a été de telle sorte formé par la nature qu'il veut atteindre au niveau des dieux. Déployer ainsi toutes ses forces et parcourir à l'aise son domaine. Elle ne lui est pas étrangère, la route par où il gravit vers le ciel. Y monter était une œuvre immense, mais il y retourne. Il est né pour ce chemin-là. Il marche hardiment, sans souci pour tout le reste. Les trésors, il n'y regarde point. Cet or et cet argent, si dignes des ténèbres où il gisait, il ne les prise pas sur le brillant dont il frappe les yeux de l'ignorance, mais d'après la fange originelle dont notre cupidité les a séparés en les exhumant. Il sait, disons-le bien, que les richesses sont placées autre part qu'où on les entasse, que c'est son âme qu'il doit remplir, non ses coffres. Un tel homme, on peut l'investir du domaine de toute chose, on peut l'envoyer en possession de la nature entière, sans autre limite que celle de l'Orient et de l'Occident. Tout doit, comme au Dieu, lui appartenir à lui qui regarde d'en haut, qui, regorgeant d'opulence, sont tous moins heureux de ce qu'ils ont que malheureux de ce qu'ils n'ont pas. Parvenus à ce point de sublimité, ils songent aussi à son corps, ce fardeau nécessaire, non en aveugle ami, mais en tuteur, et ne se met pas sous la dépendance de ce qui fut mis sous la sienne. Nul ne peut être libre qui est esclave de son corps. Car, échappât-on aux autres servages que nous crée l'amour excessif et inquiet qu'on lui porte, le corps est déjà un fantasque et difficile maître. Tantôt le sage en sort sans murmure. Tantôt il s'en élance avec courage et ne s'informe point de ce que ses restes vont devenir. Mais, comme nous ne prenons point souci des poils coupés de notre barbe, cette âme divine, alors qu'elle va quitter l'homme, estime que l'endroit où son enveloppe sera portée, que le feu la consume ou que le sol la couvre ou que les bêtes la déchirent, ne lui importe pas plus que l'arrière-fait au nouveau-né, qu'on la jette à dépecer aux oiseaux de proie ou que les chiens de mer en fassent leur pâture. Cela le touche-t-il? Lors même qu'il est parmi les hommes, nulle menace ne l'intimide. Craindra-t-il, mort, les menaces de ceux pour qui ce n'est pas assez d'être craint en deçà du trépas? Je ne m'épouvante, dit-il, ni de vos crocs, ni des outrages auxquels seront en butte les lambeaux de mon cadavre, hideux pour ceux qui le verront. Je ne réclame de personne les derniers devoirs. Je ne recommande à personne ma dépouille. Nul ne reste sans inhumation. La nature y a pourvu. Ceux que la cruauté humaine jette à l'abandon, le temps les ensevelit. Mécène a très bien dit. Que m'importe un tombeau? Le sein de la nature, de ses fils délaissés, devient la sépulture. Ce mot semble d'une âme résolue. C'était en effet un haut et mâle génie, si l'homme l'eût énervé le poète.